Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David pour l'animation. On te retrouve tout à l'heure comme d'habitude. Alors c'est l'émission L'invité du 12-13, hein, votre émission préférée. On reçoit toujours des acteurs du territoire, ceux qui font vivre notre région. Aujourd'hui, on reçoit Esper Land. Alors, dans notre studio, on a du monde. On a David Daudignan, qui est coordonnateur à Esperland, et on a Christelle et Marc, qui sont tous les deux père aidant. Bonjour, vous trois, comment allez-vous ?
Bonjour.
Mais ça
bonjour.
Va très bien, merci.
Et bien voilà, ça y est, les premiers mots sont prononcés, ça y est, on est chaud, c'est bon. on va passer une petite heure ensemble, on va découvrir votre association, qui est relativement jeune en tout cas, et ses actions, qui sont importantes. Et écoutez vos témoignages, parce que c'est intéressant, voilà, l'être humain, c'est une chose... C'est la matière première de notre profession, et la vôtre aussi. Voilà. On va d'abord écouter un petit flash info national et international, et on se retrouve ensuite pour le début de cette émission. Et voilà, c'est parti. Alors, on va discuter un petit peu de ça, Esperland. Alors, on va commencer évidemment par une petite présentation générale, mais qu'est-ce donc Esperland ?
Ben, avec plaisir. Ben, Esperland, c'est une association portée par Cap Addiction, enfin un projet porté par Cap Addiction. Nous sommes une équipe de pères aidants. Alors pères, hein, P-A-I-R, hein,
voilà.
Pères aidants. Voilà,
c'est pas important. Comme Père Noël, c'est non. Pas le même père.
Voilà. Donc nous sommes des personnes en fait qui vivons ou qui avons vécu avec un trouble, qu'il soit psychique, addictif, etc. Et on partage notre expérience, hein, nous sommes rétablis ou dans le rétablissement, et on partage nos expériences avec les personnes concernées. Ben pour les aider dans leur démarche de rétablissement. Voilà, ouais. Quand on parle de santé mentale, d'addiction, de psychiatrie,
voilà, ouais.
Ce sont des choses qui font peur. Et nous, on est là ben, pour dédiaboliser tout ça, dédramatiser.
Oui, bien sûr. Alors oui, quel type d'affection, de problème on parle exactement là ?
Alors on peut parler d'addiction, on peut parler dans les troubles psychiques, on peut parler de bipolarité, de dépression, et tout simplement de mal-être. Qu'est-ce que je fais quand je vais pas bien ? À qui je le dis, on est dans un pays où c'est très compliqué de parler de ses émotions, et on est là pour répondre. Alors ça peut se passer, ça commence par le téléphone, on a un numéro unique. On nous appelle et on va discuter avec la personne de qu'est-ce qui va pas et de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'accompagner au mieux dans sa démarche de soins potentiellement.
Oui. Alors cette structure, elle est relativement récente, elle date du mois de mars, quelque chose comme ça ?
Alors, voilà, on est opérationnel depuis le 1er mars 2025, c'est ça ? Voilà, donc oui, alors, ça fait beaucoup, ça fait quelques mois, et ça fait pas beaucoup, hein, parce que voilà, merci d'ailleurs de nous inviter pour se faire connaître. Aujourd'hui...
On est là pour ça.
Ouais, très, très peu de personnes nous connaissent, et c'est pour ça qu'on a ces démarches de communication.
Oui.
Aujourd'hui, sachez que les personnes concernés peuvent nous appeler en direct, mais aussi les professionnels de santé, les professionnels du médico-social commencent à nous connaître et à nous utiliser.
Oui, ça peut être des gens aussi qui vous appellent, pas forcément parce qu'eux, ils ont un problème, mais je connais quelqu'un qui a un problème. Après, je suppose que vous tombez aussi sur les gens du syndrome « je connais quelqu'un », mais en fait, parce qu'ils n'osent pas parler d'eux, ça doit arriver ça aussi, non ?
Mais bien évidemment, et l'entourage, bien sûr, peut nous appeler parce que voilà, il y a des problématiques. Mais ça me fait rire ce que vous dites, parce que sachez que moi, la première fois que j'ai contacté un service addicto, c'était pour arrêter de fumer, alors que j'avais un réel problème avec l'alcool.
Ouais. Bon, de toute façon, oui, c'est vrai que c'est l'addiction. Alors voilà, on a reçu déjà ici maintes, j'allais dire, associations, soit les Alcooliques Anonymes ou Ismaël Bournan, enfin voilà, et c'est souvent de la paire aidance en fait qui existe dans les associations de ce genre-là, où c'est des gens voilà, qui eux-mêmes, ils ont connu le problème et c'est de l'entraide en fait. Voilà.
Exactement, on pourrait même dire, on est tous pères aidants à un moment donné dans notre vie.
Ben oui, hein, les parents, les enfants, par exemple.
Exactement, et nous on essaie dans dans la santé mentale, d'exercer un peu de manière professionnelle, sachant que professionnel ne veut pas dire soignant. Hein. Nous ne sommes pas des soignants.
Oui, bien sûr.
On partage notre expérience et on va travailler avec et potentiellement on va aussi pouvoir traduire ce que nous disent les soignants, parce que les soignants nous disent des trucs, nous, personnes concernées, on ne comprend pas toujours. Quoi.
Oui, mais c'est vrai. Oui.
Et on n'a pas forcément envie de tout leur dire.
Oui.
Et par contre, entre nous, la discussion va être plus légère et plus facile.
Bien sûr, vous êtes quelque part une sorte d'interface entre éventuellement le système de soins, de santé, et puis la personne qui est en détresse, en problème.
On peut même parler de traducteur.
Ouais. Ah oui. Bon, c'est vrai qu'il y a un vocabulaire, des fois, notamment psychologique, des fois, quand on entend le terme de décompensation, par exemple. Ouais. Moi, personnellement, si on ne m'explique pas ça, ce que c'est décompensation, je ne comprends pas, en fait. Hein.
Exactement.
Hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. Hein. Voilà, donc.
Et puis, dans chaque métier, il y a un vocabulaire professionnel. Ouais, ouais, et, ouais. Et c'est vrai que se l'accaparer, ben, voilà, je ne vais pas bien ou je suis malade, mais je n'ai pas appris le vocabulaire. Quoi. Donc, il va falloir que je m'accapare tout ça. Et c'est un chemin.
D'accord. Alors vous êtes coordonnateur, mais vous êtes vous-même un père aidant.
Complètement. Voilà. Hein, moi, j'ai vraiment 10 ans d'enfer de l'alcool, un parcours de soins chaotique. Et ce qui fait que, ben, comme j'ai un peu tout mal fait, ben, j'ai beaucoup appris. Hein. C'est la phrase que je dis toujours.
Oui.
C'est ça. Et cette expérience-là, finalement, elle a une utilité.
Oui, bien sûr. Alors, vous avez donc un numéro de téléphone. Alors, ça vous arrive d'avoir un coup de fil, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe?
Alors, tous les jours, nous avons des coups de fil. Ouais. Alors, c'est de tête, hein, 05 54 54 5009. Et on est ouvert tous les jours, hein, de 10h à 20h, hein, même le week-end.
Oui.
Alors, sur le week-end, on a des horaires un peu plus adaptés, hein, 10h midi, 17h 20h,
ouais.
Même les jours fériés. Donc, les gens, quand ils ne vont pas bien, ben, ils nous appellent. Nous, c'était un peu. On s'est dit, bon, on va ouvrir, ça va commencer tranquille. Alors, ça a commencé tranquille, mais pas longtemps.
Ouais.
Hein, parce qu'effectivement, on se rend compte que sur notre territoire, les Landes, il y a un besoin.
Bah, bien sûr.
Il y a des gens qui sont seuls, qui ont des problématiques, qui ne savent pas à qui en parler, qui ne connaissent pas les réponses du soin.
Oui.
Donc, vraiment, voilà, ils nous appellent et nous, on va. On peut passer le relais, on peut les écouter. Puis cette écoute non jugeante qui est tellement importante.
Et oui.
Nous sommes des personnes concernées, nous.
C'est hein. ça, ça change tout. Ah ben on va se tourner un peu vers Christelle et Marc, hein, du coup, puisqu'ils sont venus, en plein sourire, hein, vous verrez sur la photo. Hein.
Et ils sont très heureux d'être là.
Ben oui, bien sûr. D'ailleurs, je crois que même ils étaient très demandeurs. Hein. Oui, alors du coup, alors sans faire aucune forme de voyeurisme ou de curiosité mal placée, qu'est-ce qui vous amène là, en demandant à Christelle, qu'est-ce qui vous a mené jusqu'ici?
Ce qui m'a mené à la père aidant, alors moi, effectivement, c'est plutôt une personne qui a vu en moi quelque chose qu'à l'époque, en tout cas, je ne voyais pas, avec une discussion. Je discutais, j'aidais en fait la représentante de l'UNAFAM sur un atelier, et en discutant effectivement avec une dame qui passait, la représentante de l'UNAFAM effectivement a vu en moi une père aidante. Elle m'en a parlé et du coup j'ai été chercher ben, c'est quoi une père aidante?
Oui, voilà.
Qu'est-ce qu'elle a vu que je ne sais pas? Et en cherchant effectivement ben, ce qu'était la père aidance, j'ai rencontré David. Et l'aventure a commencé pour moi, effectivement, de me dire ce que j'ai traversé, ce que j'ai vécu, ce mal-être. Je peux aider d'autres personnes, effectivement, ne serait-ce que déjà en les écoutant. Et en partageant avec eux effectivement mon vécu pour les aider dans leur parcours de soins.
Alors est-ce que c'est possible d'avoir une petite idée de ce que vous avez traversé justement, mais sans que vous soyez obligé bien entendu de raconter ce que vous n'avez pas envie de raconter?
Alors moi effectivement donc sur la plateforme nous sommes 6 pères aidants et nous avons tous effectivement un parcours. Moi c'est les troubles psychiques.
D'accord.
Je suis bipolaire. Avec effectivement une dépression chronique sévère.
Oui.
Et voilà, donc ce cheminement-là, je l'ai vécu pendant des années. J'ai un certain âge, on va dire. Et voilà, il m'a fallu beaucoup de temps pour avoir le diagnostic et beaucoup de temps pour comprendre et appréhender les outils que me proposait le corps médical.
D'accord.
Pour pouvoir les mettre à ma sauce effectivement prendre le chemin du rétablissement.
Oui, c'est-à-dire que voilà, ces années d'errance, vous pouvez les éviter à des gens en fait.
Exactement, c'est exactement ça. Et je vois donc sur la plateforme, pas plus, il y a pas très longtemps, une personne que j'ai eue au téléphone, ne serait-ce que quand moi je parle des hospitalisations complètes, puisque j'ai été hospitalisée en hôpital psychiatrique, j'en parle avec effectivement un œil de malade, avec une sincérité. sans tabou. Et du coup, ça dédramatise en fait la situation pour la personne concernée qui m'écoute. Et ça lui donne aussi une autre vision de ce que peut être l'hôpital psychiatrique.
Oui, bien sûr, ouais.
Et l'idée que les gens ont de l'hôpital psychiatrique où on pense que généralement, c'est des fous.
Oui, voilà, bon, là, tous les troubles psychiatriques ont toujours une mauvaise presse, parce que les gens, tout de suite, c'est le truc un peu honteux, etc. Alors après, je me demande aussi dans quelle mesure, vous-même, ça ne vous fait pas du bien. Parce que les troubles que vous avez, c'est, je pense, des choses dont on ne guérit pas. On arrive à les stabiliser, à les maîtriser, à juguler la bête, on va dire, je pense. Hein. Mais peut-être que ça fait partie aussi du processus, vous, cette pérédance.
Tout à fait. Mais le trouble, en fait, comme dit David, moi, je ne dis jamais que je suis une ancienne malade. Je suis une malade.
Oui, oui.
Je vis avec mon trouble. J'apprends à vivre avec.
Oui.
Et je continue à apprendre
encore
des outils tous les jours.
Oui, oui.
Effectivement, de partager ces expériences-là avec d'autres personnes, ça m'aide parce que ça me conforte aussi. Très souvent, quand on est malade, on se dit toujours qu'on n'a pas d'utilité, on ne sert à rien.
Oui, je comprends. Ouais.
Et ce sentiment que me donne la pérédance, c'est d'être utile.
C'est la preuve du contraire.
On n'est pas des objets, on n'a pas d'utilité en tant qu'être humain, mais en tout cas, ça me donne ce sentiment d'apporter et d'aider d'autres personnes qui vivent comme moi avec un trouble.
Très bien, mais c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, c'est déjà très bien. Alors on va faire une première pause et après on va cuisiner un petit peu Marc là, il attend que ça, il est à fond là.
Ah ouais.
Alors Marc, il faut qu'on parle.
Allons-y.
Donc du coup, c'est quoi votre trajectoire? Qu'est-ce qui vous a mené à ça?
Alors moi tout d'abord, trajectoire surtout sur une grosse consommation d'alcool qui était devenue récurrente, j'ai une quarantaine d'années. Qui était devenu complètement catastrophique. C'est-à-dire une magnifique arrivée aux urgences avec un état clinique critique. Ça avouait en fait une vérité. Hein. Ça avouait prendre le constat d'être un alcoolique, enfin d'assumer ça. On m'a proposé en fait un parcours médical, suivi médical, et surtout entre autres la père aidance, puisqu'en fait David qui est avec nous là en fait est mon père aidant à l'origine, en fait mon parrain, en fait mon fameux parrain.
Oui, oui.
Donc c'est ce qui m'a relevé en même temps qu'un suivi addicto à Mont-de-Marsan. Et au bout de 2 ans, c'est-à-dire de combat, de me remettre en selle entre guillemets, j'ai moi-même eu cette envie en fait d'accompagner les autres, quoi.
Voilà. Ouais, alors c'est vrai que comme me disait Christelle, on parlait des choses qui sont toujours là et ça passe jamais. Enfin, l'alcoolisme, en tout cas, bon, j'ai reçu pas mal de gens qui. Ça reste quand même l'addiction, je pense, entre la cigarette et l'alcool, la plus présente dans la société, je crois. Voilà.
Coluche le dit très bien, hein, ouais. C'est le produit le plus compliqué. Hein.
Ouais, ouais. Et voilà, on l'est toujours, alcoolique. On ne dit pas je suis un ex-alcoolique.
On reste.
C'est fini, on
reste
est
malade,
alcoolique, hein, ouais. Voilà. Hein, donc, voilà. Mais c'est vrai que ça peut être été difficile à un moment donné pour vous d'accepter de mettre ce mot sur ça, parce que c'est jamais forcément agréable, j'imagine.
C'est très dur. Pendant un certain temps, on est comme tout le monde, on fait la fête, et puis c'est tellement dans la société, ça fait tellement partie de nos échanges, de consommer, de boire pour n'importe quelle occasion. Et après, effectivement, on passe directement à l'alcoolo, voilà, le méchant alcoolo est stigmatisé, voilà, et la honte surtout.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais, bon. Et ça va mieux, du coup ?
Ça va super bien.
Ouais.
Je vis on parle d'abstinence heureuse. Donc là, je fête bien mes 3 ans.
Très bien.
Et puis là, maintenant, nouveau parcours, quoi. Repris mes études, participer à la construction avec le projet de David, avec mes collègues aussi qui sont extraordinaires. C'est une très chouette aventure.
Ouais.
Et voilà, maintenant je bosse avec mon parrain qui me fait venir à la radio.
Ouais. Ah, il est pas sympa. Hein.
Mais non, mais il adore ça. Je suis obligé de.
Oui.
Je respecte ses demandes.
On en parlera, monsieur Dodignan.
Oui, alors, et puis vous êtes passé entre guillemets de l'autre côté de la barrière. Hein. Vous n'êtes plus celui qui subit. Qui est juste malade, entre guillemets, etc. Hein. Vous êtes aidant, même si vous êtes tous deux, hein, tous les trois même, hein, toujours victime, souffrant de quelque chose, en tout cas, on va dire. Mais vous êtes passé de l'autre côté de la barrière, et ça fait, comme je disais à Christelle, ça fait partie aussi du processus pas de guérison parce qu'il n'y en a pas vraiment, mais de maintien dans un
c'est pour vie. Ça qu'on parle de rétablissement aujourd'hui. Ouais. On ne parle plus de guérison parce que voilà. Ouais, voilà, on est dans le rétablissement. Donc, ouais. C'est-à-dire que et on pourrait presque ne plus parler de souffrance parce que moi aujourd'hui, tant que j'arrive à m'éloigner du produit, je suis même très très heureux. J'ai envie de dire, c'est ça qui est assez incroyable. Ouais. Mais par contre, j'ai accepté ma maladie. J'ai accepté que je suis un moléculo-dépendant. Donc, si je mets cette molécule dans mon corps, je deviens insupportable pour les autres, je deviens un boulet pour la société et je perds le contrôle. Donc, on pourrait comparer ça aux diabétiques avec le sucre. J'ai une intolérance à cette molécule, je l'accepte et j'ai trouvé le moyen de très bien vivre avec ça. Et il s'avère que c'est la non-consommation pour moi, pour Marc aussi, pour beaucoup de personnes.
Alors comment ça se passe au niveau du quotidien justement? Est-ce qu'il y a des stratégies d'évitement, de fuite, de situations qui sont dangereuses ou ça passe?
On apprend à vivre, c'est très dur au début. C'est là où d'ailleurs David m'avait beaucoup accompagné parce qu'on apprend à répondre, enfin à stopper les sollicitations. Ça reste toujours compliqué, pas plus tard que cet été j'ai quand même pris, moi, dans la tronche, mais t'es pas drôle maintenant que t'as arrêté l'alcool. T'as arrêté, donc t'es devenu pas drôle. Je fais allusion à une certaine séquence.
Mais c'est Léa Salamé qui a dit ça.
C'est Léa, ouais.
Oui, voilà.
Ouais.
Pour pas citer. Et donc j'y ai eu droit quand même cet été il y a encore cette. S'il y a un message à faire passer, justement, c'est d'arrêter de forcer les gens et encore plus. Les gens qui ne boivent pas ont peut-être des raisons.
Ouais, c'est vrai.
Des beaux projets. Beaux projets aussi de grossesse par exemple. Il faut respecter les gens qui consomment pas.
Oui, bah alors je dois confesser que ça a dû m'arriver au moins une fois de dire cette bêtise. Franchement, j'en suis persuadé.
Mais ne le soyez pas parce que le pire de tout c'est que moi je l'ai pensé sincèrement. Vous savez, quand j'étais dans la consommation ce qu'on appelle dangereuse avant l'addiction. Moi j'étais persuadé que les gens qui boivent pas c'est des imbéciles quoi, ils ont rien compris à la vie, ils savent pas s'amuser. J'étais vraiment dans ce match-là. Et quelqu'un qui ne voulait pas boire d'alcool, pour moi, il était pas drôle. Il fallait qu'il sorte de mon cercle. Donc on s'en veut pas. On nous apprend à penser comme ça.
Ouais. Alors c'est vrai qu'aussi, il y a les copains sympas, ceux qui disent « allez ». Ouais. Allez, alors qu'on la cigarette par exemple aussi, voilà, quand on a arrêté de fumer, ce qui est aussi une drogue, c'est pas évident d'arrêter de fumer.
Ouais. C'est très compliqué.
Ouais, surtout qu'en plus on prend un peu cher au niveau poids par exemple. Et il y a toujours quelqu'un qui va venir solliciter, qui propose, alors qui sait. Et c'est ça des fois, alors il y a peut-être quelque chose un petit peu de vice des fois chez l'autre, ou une part de jalousie, de pas être capable d'être dans la démarche d'arrêter, de vouloir tendre le produit à la personne qui essaie d'arrêter. C'est vache ça quand même.
Mais c'est parce que cet effet miroir, il est violent. Moi je sais que depuis ça fait bientôt 8 ans là que je consomme plus, mais pour certaines personnes c'est formidable, notamment pour mon entourage et l'équipe, mais pour d'autres personnes c'est je dérange. Et pas parce que je dis quoi que ce soit, parce que moi vraiment je suis pas dans le jugement. Le produit n'est pas le problème, pour moi c'est la relation qu'on a avec le produit. Juste être, ça dérange. Et là, c'est vrai qu'on rentre dans une démarche, dans une réflexion qui est assez, assez étrange.
C'est la psychologie est particulière. C'est vrai qu'entre ceux qui n'ont pas envie d'arrêter, ceux qui aimeraient mais qui n'y arrivent pas, ceux qui l'ont fait, il y a une petite danse à plusieurs pattes là, qui est un petit peu compliquée des fois.
Et les produits nous servent à atteindre le plaisir facilement et sans contrainte. Et c'est vrai que comme nous sommes dans l'obligation de nous faire plaisir, on est obligé d'utiliser. Enfin, j'ai presque envie de dire, on est obligé d'utiliser à certains moments de notre vie les produits. Mais après, voilà, est-ce que tout va bien dans ma vie? Est-ce que j'ai perdu le contrôle ou pas? Est-ce qu'il y a des conséquences négatives ou pas? Enfin, et le déni est surpuissant.
D'autant plus, vous êtes obligé de vous battre contre une bonne partie de la société, dont notamment la publicité, les gentils messieurs du marketing, la manipulation mentale, quand même, des gens lobbies. Qui font en sorte que vous soyez addict. Quand même.
Ouais, les lobbies sont surpuissants c'est vraiment un sujet très 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 complexe.
Ouais, et c'est vraiment très ancré dans la société.
Et la pression sociale
ici on est dans le Sud-Ouest, les fêtes et tout. Enfin, je sais pas, on peut pas faire des fêtes. Si on veut éviter le produit, par exemple.
On les fait, mais différemment. Et c'est vrai qu'on rentre plus tôt.
Ouais, bah, c'est ça. Et en meilleur état. Et en meilleur état.
Oui, oui. On ramène tout le monde.
On va faire notre deuxième pause. On va écouter le flash info local et on se retrouve pour la suite de cette émission. Alors, et si j'appelle votre numéro et je tombe sur qui et comment ça va se passer? On peut avoir une petite idée du parcours de l'appelant.
On a donc un numéro unique, hein. Heureusement les nouvelles technologies maintenant nous permettent de faire des choses, j'aime bien le redire, 05 54 54 5009,
il faut.
Et vous allez tomber sur le père aidant qui travaille en ce moment, donc par exemple ça peut être Christelle.
Par exemple.
Ouais. Et donc la personne, la première chose qu'on va lui demander c'est voilà, pourquoi vous nous appelez.
Donc elle nous appelle, donc elle veut partager avec nous effectivement les difficultés qu'elle rencontre. Donc ça peut être un trouble psychique, une addiction, un moment de vie compliqué. Donc on va l'écouter sans jugement, avec beaucoup d'empathie, et puis partager avec elle son moment de vie, notre expérience. Nous avons été effectivement formés pour pouvoir apprendre à écouter les autres et à les aider, à poser les bonnes questions. Nous avons fait effectivement aussi des formations d'aide aux premiers secours en santé mentale, le PSSM à Dax. Donc voilà, nous avons des outils qui nous permettent, en plus de notre expérience, de notre parcours, d'aider les autres à cheminer effectivement dans leurs réflexions et surtout à les écouter.
Ouais, c'est ça qui est important. Moi, j'aime beaucoup expliquer. On ne devient pas père aidant parce qu'on a un diplôme. Hein, c'est vrai, j'aime bien le mot cheminement. Hein, ça prend du temps parce que déjà, il faut qu'on soit au clair avec nous-mêmes, qu'on ait suffisamment de recul et cette envie qui souvent nous dépasse de se rendre utile. Hein. Moi, je sais que vraiment, je me suis retrouvé père aidant malgré moi, parce que c'est vrai que quand j'ai réussi à quitter la consommation, j'habite une petite ville, à Mont-de-Marsan, c'est un petit village. Il y a plein de gens qui ont commencé à m'appeler, comment t'as fait, machin, parce que mon frère, parce que mon père, parce que mon fils. Et je savais pas quoi leur dire, parce qu'il n'y a pas la solution. Hein, et par contre, en discutant, j'ai remarqué que les gens allaient de plus en plus vite. Et là, je me suis renseigné et je suis tombé sur patient expert addiction sur Internet. Et donc, je suis parti rejoindre une association, France Patient Expert Addiction, qui a une certification avec la PHP, hein, l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, et où on apprend tous ces outils-là et tout ce savoir qui se fait un peu dans les grandes villes. Mais le but avec Esperland, c'est qu'on ramène tout ça dans nos territoires. Et donc, voilà, c'est pas parce qu'on est malade, c'est pas parce qu'on a un trouble, c'est pas parce qu'on est addict qu'on devient père aidant. On a envie de le devenir et on apprend.
Oui, alors c'est cette formation premier secours pour les troubles psychiatriques. En fait, c'est presque une chose que de la même manière que les premiers secours, on devrait tous avoir des notions parce que à un moment donné dans notre vie, je crois que c'est obligé qu'à un jour on soit confronté à un parent, un copain, un gosse, qui que ce soit, qui soit en détresse. Et franchement, autant à la limite si on s'est posé un pansement ou fait un point de pression, c'est une chose, mais un point de pression et un pansement à l'âme, ça par contre, on n'est pas forcément super fort pour ça.
Hein. Et puis ce sont des choses qu'on a... on parle de sujets tabous là, c'est des choses qu'on a toujours cachées, il y a encore quelques dizaines d'années, quand on avait quelqu'un, si on parle de maladie mentale, c'est des gens qu'on cachait. Hein. On allait les placer à 800 km de la maison. Enfin, on a une époque où la parole se libère et donc ça nous remue. Ça nous remue et il faut qu'on arrive à avancer avec ce sujet.
D'accord.
Et c'est vrai que moi, je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas de ça à l'école. Là, ça y est, c'est parti, là. Ça avance un petit peu.
Mais on
doit avoir des bases. Parce que, comme vous dites, on est tous touchés. Hein. C'est l'affaire de tous.
C'est obligé.
On parle d'un Français sur cinq. Ça a été la grande cause nationale. Si on regarde autour de nous, on est tous touchés.
Oui, c'est sûr.
L'avantage de la plateforme, c'est qu'effectivement, pour le coup, quand vous appelez, il n'y a personne, il n'y a que vous, et le père aidant que vous allez appeler. Si vous ne voulez pas le dire à votre entourage, vous ne voulez pas en parler, vous avez des difficultés, des sujets que vous ne souhaitez pas aborder, en appelant à la plateforme, vous savez que vous allez effectivement avoir au bout du fil une personne qui va vous comprendre, va vous écouter, qui est formée pour effectivement vous apporter son soutien.
Tenue au secret.
Et tenue au secret.
Oui, c'est important. Il faut qu'il y ait une confiance qui s'établisse. Il faut être sûr qu'il y ait un secret, c'est évident. Ouais. Et alors, c'est quel type d'appel vous pouvez recevoir ? Par exemple, pour avoir une idée, je ne sais pas trop.
On a en général trois types d'appels. On a beaucoup de personnes qui font partie de l'entourage, qui souffrent de quelqu'un dans leur famille où ils ne savent pas quoi faire, en fait, ils ne savent pas qui consulter en fait, ou qui solliciter pour pouvoir aider la personne qui va souffrir. Donc on a ce genre de demande-là. On a des personnes directement concernées par le trouble qui vont vouloir une information ponctuelle ou peut-être plus des renseignements en fait, que l'on va réaiguiller. Et après, des personnes qui ont vraiment besoin de parler, qui vont moins oser aller sur des structures et qui vont, que l'on va accompagner, aider à accompagner et remettre aussi dans certains soins, raccrocher au parcours pour éviter justement qu'ils restent seuls dans ça.
Oui, c'est ça.
Et on a depuis peu maintenant les professionnels qui nous appellent pour savoir comment on peut travailler ensemble, etc. C'est tout nouveau.
Oui, ça c'est bien.
Ouais, mais c'est très valorisant.
Et ça veut dire que vous, tiens, on parlait d'avoir la sensation d'avoir une utilité. Bon, voilà, ben là, du coup, on pouvait vous dire, en tout cas, il y a un trou dans la raquette à combler et vous êtes là pour ça.
C'est ça, et surtout, enfin, je parle pour mon cas. Moi, je sais que bon, voilà, le système potentiellement de santé, enfin en général, peut dysfonctionner parfois ou dysfonctionne par manque de moyens, etc. Mais n'empêche que malgré ces dysfonctionnements, moi aujourd'hui je suis en vie.
Oui.
Donc, et donc de participer aujourd'hui, c'est quelque chose de très important pour moi. Et potentiellement de participer à l'amélioration, alors là c'est encore plus important, et c'est encore plus valorisant.
Alors, est-ce qu'il y a une sorte de cooptation ? C'est-à-dire, est-ce que c'est arrivé déjà, quelqu'un que vous appelez, et vous faites, vous l'aidez, et vous, éventuellement vous l'aiguillez. On est bien d'accord que vous n'êtes pas des soignants, hein, donc vous allez dire, donner un conseil, il faut que tu ailles à tel endroit, on va t'aider, etc. etc. Et donc, du coup, aussi, le principe, c'est peut-être aussi de récupérer des gens qui seront passés par ce système-là et qui vont devenir des pères aidants à leur tour avec vous.
Ouais, mais c'est là qu'on va leur parler des formations qu'on a faites.
On va effectivement des personnes qui ont une très belle expérience aussi par rapport à différentes maladies, que ce soit de troubles psychiques ou troubles d'addiction. Les accompagner pour se former, puisqu'ils peuvent potentiellement eux-mêmes, après un moment, avoir le même parcours que nous. Donc il y a plusieurs formations à l'heure actuelle sur Bordeaux, dans les addictions aussi. Donc voilà.
Et on est toujours dans le travail de père aidance, parce que on encore une fois, on partage notre expérience, quoi, par quoi on est passé pour en arriver là. Quoi.
Ouais, donc là, vous êtes 7, mais qui sait ? Peut-être que vous serez 10, 12 dans quelques mois.
Mais j'espère que nos financeurs vous entendent.
Oui. On aimerait.
Ah mais j'espère qu'ils vous entendent, oui, parce que vous êtes là aussi pour ça, pour faire entendre vos besoins. D'ailleurs, voilà, parlons-en, au niveau techniquement, financièrement, logistiquement, comment ça fonctionne ?
Alors, nous sommes soutenus par une association qui s'appelle Cap Addiction, qui est à Luc Bardès, à côté de Mont-de-Marsan. Et le plus grand support, financeur aujourd'hui, actuellement, c'est l'ARS des Landes, qui a souhaité que ce projet naisse. Donc, on est en phase expérimentale. Aujourd'hui, les pères aidants, on est employés par la structure.
D'accord.
À mi-temps. Mais bien évidemment, c'est malheureux ce que je veux dire, mais parce qu'on a du succès. Voilà, ça veut dire que il y a beaucoup de gens en souffrance.
Hein. Ouais, c'est ça.
Le besoin, on se rend compte du besoin, et il va falloir qu'on accélère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait appel à des financeurs autres que pour pouvoir embaucher plus de monde. Parce que c'est toujours pareil, la pair aidance, ça peut être fait de manière bénévole. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Par contre, là, ce que les personnes ont besoin, ce que les équipes soignantes ont besoin, les gens du médico-social, c'est des personnes sur qui compter à des heures précises. Voilà, parce que le bénévolat, Ce qui est la difficulté, c'est qu'on peut s'en servir quand la personne est disponible, quand elle a du temps. Alors que là, on essaie d'avancer plus vite. Quoi.
C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, étant salarié d'une association moi-même.
Voilà.
Donc on sait quelle est l'importance de la constance, de la permanence.
Et sur notre territoire, vraiment, sur les gens de terrain, les associations, on n'est pas dans la réflexion. On voit, on est au plus près. Et c'est vrai que il faut nous faire confiance et il faut que les choses avancent.
D'accord. Et alors, en termes aussi de local, vous avez un local
Eh bien non.
Non.
Heureusement, grâce au téléphone, grâce à la visio, alors grâce au département qui nous prête des locaux, si on veut rencontrer des personnes ou des professionnels, on a fait le choix. Alors, c'est un choix économique, parce qu'un local, ça coûte. Et surtout qu'on est dans toutes les Landes. On intervient dans tout le département des Landes.
Ouais.
Donc, où c'est qu'on le met, ce local, c'est compliqué.
Vous avez tous un portable avec une SIM qui va bien. Et en fait, quand on appelle le numéro, ça redirige vers le premier qui répond.
Exactement.
C'est
vraiment toutes ces nouveautés technologiques nous permettent d'agir comme ça.
Ah oui, bien sûr.
Et on peut, ce qu'a dit Christelle tout à l'heure très bien, c'est qu'on peut aller rencontrer la personne là où elle le souhaite. On peut aller marcher, on peut se retrouver à un café, on peut aller chez elle.
Et est-ce que vous avez des outils de communication entre vous, genre WhatsApp, ce genre de choses-là? Parce que qui n'a pas son WhatsApp? Je ne sais pas comment fonctionner.
Les emails, les WhatsApp, on a des plateformes.
Outils collaboratifs.
Des outils collaboratifs.
D'accord.
On est obligé, en fait.
On se voit toutes les semaines, parce que pareil, on est étalé dans le territoire. Hein, les pères aidants, on n'habite pas tous à Mont-de-Marsan, étalé complètement dans les Landes. On peut, les visios aujourd'hui nous permettent de nous réunir souvent, quand il y en a besoin. Et c'est vrai que depuis 2020, tout le monde s'est accaparé ces outils. On a appris à les utiliser.
C'est sûr, 2020, encore une fois, c'est rare qu'il y ait une émission, on ne parle pas de ce fameux confinement, parce que ça a dû créer aussi, il y a eu des réflexions sur ça, au niveau addiction et détresse psychologique, je crois que ça a été un déclencheur important.
Les chiffres sont incroyables. Ouais. 2019, 10% de la population adulte en dépression, 2021, 20%, a doublé. Oui, effectivement, ça a lancé... lancer quelque chose qu'il faut aujourd'hui trouver les moyens de rétablir. Il faut chercher les solutions.
Tout à fait. Bon, on va faire notre dernière pause et on va attaquer ensuite la dernière partie de notre émission. À tout de suite. Alors, au niveau actualité et projet,
on en est où pour Esperland? Déjà, on continue notre petite tournée pour se faire connaître. Mais là, les grandes actualités, c'est qu'on va lancer des ciné-débats. Parler de santé mentale et d'addiction. On a accès à des nouveaux films. Là, donc, on va vous parler de ça très bientôt. Ça se met en place. Et la grande nouveauté, c'est les groupes de parole. On veut lancer ça pour la rentrée. Là, on est en création. Groupes de parole qui vont se passer sûrement en visio. Ça va être la grande nouveauté.
Il n'y a pas de local pour l'instant.
Oui, et c'est même pas ça, c'est comment réunir une personne de Peyrorade et de Luxeuil.
C'est ça.
Voilà. Oui. Donc, on cherche vraiment des solutions pour que les gens puissent s'exprimer sans avoir peur, quoi. Et c'est vrai que les nouveaux outils sont hyper bien pour ça. Et ça fonctionne.
Est-ce que vous avez des partenaires aussi, des gens qui font un peu la même chose que vous, avec qui vous travaillez, vous partagez des ressources, des compétences, des moyens, comment ça se passe?
On a plusieurs partenaires, on est très très bien reçus par le département qui nous a propulsés, d'ailleurs qu'on tient à remercier. On est en train de continuer le maillage sur les différentes structures. Les gens nous attendent, le médico-social, les associations, des superbes associations de réinsertion.
Mais là, on est à Dax. Ce matin, avant de venir ici, on était avec la Maison du Logement, où on est en train de passer un groupe. Partenariat, on peut parler de l'UNAFAM, on peut parler de la DAPI, on peut parler du CHI à Mont-de-Marsan, à Dax, c'est en train d'arriver. Comme je vous disais tout à l'heure, les professionnels sont en train de s'emparer de ce que l'on fait. je vais pas dire tous les jours on a une sollicitation, mais pas loin. Donc c'est ce qu'on appelle, et nous ne sommes pas une start-up, donc on est un peu submergé, mais en tout cas ça avance fort, et maintenant c'est pour ça qu'on peut se permettre d'ouvrir des groupes de parole, tout ça. On a suffisamment de personnes pour développer tout ça. Ouais.
Comme on disait en antenne, ce qui prouve aussi, voilà, c'est que contrairement à ce que certaines personnes croient ou veulent faire croire, c'est les gens eux-mêmes font beaucoup de choses sur le territoire, en fait. Vous en êtes la preuve, voilà.
Merci.
C'est ça qui fait vivre le territoire, c'est les gens comme vous, c'est ça.
C'est prendre du temps, de s'impliquer, c'est vrai que voilà. Mais on vit une époque de fou, hein. On est tous des agendas de ministres. À l'époque de mon grand-père, ça n'existait pas.
Hein. Et oui.
Donc c'est comment faire pour trouver du temps, etc. Mais on y arrive.
Très bien. Mais avant qu'on se quitte, si vous avez un petit message personnel, vraiment, si vous avez une phrase qui vous semble que vous auriez aimé entendre, hein, le jour où vous étiez dans la difficulté avant d'arriver à trouver des solutions à vos problèmes, qu'est-ce que vous avez à dire aux gens pour qu'ils viennent vous appeler ?
Alors moi, je vais dire la mienne, hein, c'est ne restez pas seul, appelez. Voilà. Ne restez pas seul, et vous n'êtes pas tout seul. Nous sommes des millions.
Un peu la même chose, que l'on n'est pas seul, c'est important. Qu'il y a une solution, en fait, que le tunnel, il y a une lumière au fond du tunnel.
Ça, c'est bien, ouais. C'est bien. Tant que c'est pas le train, c'est bien.
Non, vaut mieux pas.
Moi, si j'avais quelque chose à dire, c'est merci David, pour le coup, parce que je trouve ça merveilleux que dans les Landes, dans notre département des Landes, Esperland existe, et donc vous n'êtes pas seul, vous pouvez nous appeler, on est là pour vous écouter et pour vous aider.
Voilà, n'hésitez pas, bon. Esperland.
Très bien, merci beaucoup, ça m'a fait vraiment plaisir de vous recevoir.
Grand merci à vous, et grand merci à la radio.
Et puis voilà, ça fait toujours plaisir de voir des gens qui ont un petit peu bavé, qui en bavent encore, c'est la vie, mais vous êtes là avec votre sourire, vos témoignages, et voilà, ça c'est bien, merci beaucoup.
Merci pour votre invitation.